Vous écoutez, on lit pour vous.
Alzheimer, miser sur une approche plus positive. Un texte de Susana Lopez-Ortiz, Alejandro Santos Lozano et Celia Garcia Chico, paru le 19 août 2025 dans l'actualité. Le concept de capacités intrinsèques se concentre sur les facultés encore fonctionnelles plutôt que sur celles qui sont perdues. Une approche également prometteuse pour le vieillissement en bonne santé. Susana Lopez-Ortiz et Celia Garcia Chico sont professeurs et chercheuses en sciences de la santé à l'Université européenne Miguel de Cervantes en Espagne. Alejandro Santos Lozano est professeur titulaire à la même université. En 1967, Martha Cinta était danseuse étoile au New York City Ballet. Près de 50 ans plus tard, en 2014, elle est arrivée dans une maison de retraite à Alicante, en Espagne, avec un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Elle y a passé les dernières années de sa vie, jusqu'en mars 2020, date de son décès. Lorsqu'elle est entrée en institution, de nombreuses personnes ont certainement pensé qu'il ne restait plus rien d'elle. Mais un jour, un thérapeute de l'initiative Musica para Despertar, musique pour l'éveil en français, a décidé de jouer la musique du célèbre ballet Le Lac des Cygnes de Piotr Ilitch Tchaïkovski, et la réaction de Martha a ému toute l'Espagne. L'artiste d'origine espagnole a commencé à danser dans son fauteuil roulant, en bougeant ses bras avec une délicatesse qui semblait impossible pour une personne atteinte de sa maladie. La danse de Martha Cinta à un stade déjà avancé de la maladie a fait réfléchir à la possibilité de réorienter le traitement de la maladie d'Alzheimer. Et si le cœur du problème résidait dans la manière dont nous comprenons les capacités dont disposent les personnes âgées qui souffrent de cette maladie? Définir les capacités intrinsèques. Pour apporter des réponses à cette question, nous nous référons d'abord au concept de capacités intrinsèques introduit en 2015 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans son rapport mondial sur le vieillissement et la santé. Selon les auteurs du rapport, le concept fait référence à l'ensemble des capacités physiques et mentales d'un individu à un moment donné et non uniquement à ses déficits et à ses maladies. Depuis, l'OMS a identifié 5 dimensions principales autour des capacités intrinsèques. La locomotion, la cognition, l'état psychologique, la vitalité et les capacités sensorielles, définies par l'audition et la vision de la personne. Une approche plus positive. À l'heure actuelle, les personnes âgées consultent un médecin quand un déclin évident de leurs capacités a déjà été constaté ou au moment où un événement indésirable survient. Cependant, des données scientifiques montrent que le déclin fonctionnel peut se manifester avant l'apparition de symptômes cliniques évidents de démence. De plus, nous savons que ce déclin peut être retardé ou certains de ses aspects inversés si des interventions appropriées sont mises en œuvre. Dans cette logique, les capacités intrinsèques se concentrent sur l'évaluation des capacités qui sont maintenues et non de celles qui sont perdues, ce qui peut se révéler particulièrement crucial dans les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. L'anticipation comme stratégie. La maladie d'Alzheimer, qui est une pathologie neurodégénérative chronique et progressive, a traditionnellement été abordée dans une perspective qui se concentre uniquement et exclusivement sur la perte de mémoire. Cependant, cette conception peut être considérée comme réductrice, car elle minimise la détérioration de la personne et rend invisibles les capacités qui restent intactes, telles que les capacités sensorielles, psychologiques ou motrices. L'approche fondée sur les capacités intrinsèques recherche précisément le contraire: observer, prévenir et préserver. De fait, la détection précoce de déficiences concernant certaines capacités ou d'autres peut aider à mettre en place des interventions individualisées et efficaces qui aident à maintenir des capacités intrinsèques adéquates plus longtemps. De plus, une détérioration dans un des domaines de capacités intrinsèques peut entraîner une réaction en chaîne. Par exemple, une perte auditive non détectée peut conduire à un isolement social, ce qui peut affecter l'humeur et favoriser un mode de vie plus sédentaire. Améliorer la vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Selon le rapport mondial 2023 sur la maladie d'Alzheimer, environ 40 % des cas de démence pourraient être évités ou retardés en agissant sur 12 facteurs de risque tout au long de la vie, notamment l'éducation, la sédentarité, l'hypertension ou la santé auditive. Parenthèse, ce rapport est édité par Alzheimer Disease International, ou ADI, une fédération internationale d'associations consacrée à la maladie d'Alzheimer et aux démences partout dans le monde. ADI revendique des « relations officielles » avec l'OMS. Note de la rédaction, fin de parenthèse. Ces facteurs sont présents dès les premiers stades de la vie. De ce fait, la prévention relève non seulement du système de santé, mais aussi des politiques publiques, des communautés et des établissements d'enseignement. Agir à ces différents niveaux ne nécessite pas d'interventions cliniques complexes, mais plutôt des stratégies individuelles et communautaires qui contribuent à renforcer les capacités intrinsèques de ces personnes. On citera, par exemple, la promotion de l'activité physique qui renforce la dimension locomotrice, la mise en œuvre de thérapies cognitives et de stimulation sensorielle qui contribuent à améliorer la cognition, ou la création de lieux de rencontre pour les personnes âgées en raison de leur importance pour la prise en charge de l'aspect psychologique. À terme, au-delà des essais cliniques et de la recherche de nouveaux biomarqueurs, les capacités intrinsèques pourraient devenir une arme puissante pour anticiper les effets de la maladie d'Alzheimer et améliorer la vie des malades. Une étude longitudinale dans laquelle a été analysée la trajectoire en termes de capacités intrinsèques de près de 15 000 personnes a montré que le déclin dans des domaines comme la locomotion et la cognition est fortement prédictif de l'apparition de démence, d'invalidité et de mortalité. Objectif : préserver l'autonomie. Nous avons vu l'utilité des capacités intrinsèques pour appréhender la maladie d'Alzheimer selon une nouvelle approche. Elles se positionnent également comme l'un des principaux concepts pour comprendre le vieillissement en bonne santé. C'est ce qu'affirme la « Décennie pour le vieillissement en bonne santé 2020-2030 », un document qui présente la stratégie de l'OMS en matière de vieillissement et de santé. Ce rapport définit le vieillissement en bonne santé comme « Citation, le processus de développement et de maintien des aptitudes fonctionnelles qui permettent aux personnes âgées de jouir d'un état de bien-être. Les aptitudes fonctionnelles sont les capacités qui permettent aux individus d'être et de faire ce qu'ils jugent valorisant. » Fin de citation. Les auteurs soulignent également que la qualité de vie des personnes âgées et de leurs familles, ainsi que des communautés dans lesquelles elles vivent, est l'objectif principal du vieillissement en bonne santé. Pour y parvenir, l'OMS propose 4 domaines d'action clés pour passer d'un modèle de dépendance à un modèle de participation active. 1. Changer la façon dont nous concevons l'âge et le vieillissement. 2. Créer des communautés qui soutiennent les capacités des personnes âgées. 3. Fournir des soins intégrés et centrés sur la personne. 4. Garantir l'accès aux soins de longue durée lorsqu'ils sont nécessaires. Connaître et comprendre les dimensions qui composent les capacités intrinsèques et les facteurs de risque qui influencent l'apparition et la progression de la démence permettrait de développer des stratégies visant à préserver les capacités physiques et mentales des personnes âgées. Par exemple, au moyen d'activités ciblées telles que l'entraînement fonctionnel ou la stimulation cognitive. En outre, l'intégration d'évaluation des capacités intrinsèques tout au long de la vie pourrait améliorer la compréhension des liens entre les processus qui sous-tendent le vieillissement et l'adhésion à des modes de vie sains. Encourager ces habitudes permettrait non seulement d'accroître les bénéfices apportés par leurs pratiques, mais aussi de favoriser leur maintien à long terme en promouvant un vieillissement actif, sain et indépendant. C'était Alzheimer, miser sur une approche plus positive, un texte de Susana López Ortiz, Alejandro Santos Lozano et Celia García Chico, paru le 19 août 2025 dans L'Actualité.
Des hausses des droits de scolarité revues à la baisse dans plusieurs écoles privées, un texte de Zachary Goudreau, paru le 6 août 2025 dans Le Devoir. De nombreuses écoles privées du Québec envisagent de réduire la hausse des droits de scolarité qu'elles avaient initialement prévu imposer aux parents de leurs élèves à la suite de la décision du gouvernement Legault de limiter les restrictions budgétaires auxquelles elles font face, a appris Le Devoir. En juin dernier, les écoles privées apprenaient que Québec leur imposait des restrictions budgétaires s'élevant à 56,9 millions de dollars, soit l'équivalent d'environ 475 dollars de moins par élève, selon les calculs de la Fédération des établissements d'enseignement privés, FEEP. Afin d'éviter d'avoir à restreindre les services aux élèves, plusieurs établissements privés ont annoncé dès lors aux parents de leurs élèves qu'ils devront débourser à partir de cet automne quelques centaines de dollars de plus que prévu par enfant à titre de droit de scolarité. On avait demandé une contribution additionnelle aux parents de 250 dollars initialement, souligne ainsi au Devoir le directeur général du Collège Bourget, situé à Rigaud, Philippe Bertrand. Ce dernier s'était toutefois engagé à revoir cette hausse des droits de scolarité à la baisse dans l'éventualité où Québec réviserait sa décision. Or, justement, devant la grogne populaire, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a fait volte-face à la mi-juillet en annonçant un réinvestissement de 540 millions dans l'ensemble du réseau scolaire. De ce montant, 29 millions sont destinés aux écoles privées. Celles-ci ont alors vu l'ampleur des restrictions budgétaires qui leur avaient été imposées le mois précédent être réduite de moitié. Résultat, Philippe Bertrand limitera à 125 $ par élève la hausse des droits de scolarité imposée par son établissement, confie-t-il. Un cas qui est loin d'être unique. La majorité des établissements, je vous dirais, vont revoir à la baisse la hausse des frais de scolarité, confirme le président de l'Association des directrices et directeurs généraux des établissements scolaires de l'enseignement privé du Québec, Éric de Guire. Les décisions prises en ce sens seront communiquées aux parents concernés d'ici 2 semaines, indique-t-il. On n'a pas encore décidé de combien, mais c'est sûr qu'on va diminuer l'augmentation aux parents, confirme lui aussi le président directeur général du Collège Sainte-Anne à Montréal, Hugo Cavenaghi, qui entend aborder cette option avec les membres de son conseil d'administration. Une incertitude demeure. Certains établissements avaient pour leur part décidé de ne pas augmenter les droits de scolarité de leurs élèves en juin dernier, malgré les restrictions budgétaires alors imposées par l'État. C'est le cas du Collège Charles Lemoine, qui a plutôt mis des projets d'entretien et d'agrandissement sur pause et coupé quelques postes qui étaient en affichage. Des décisions que l'établissement a décidé de maintenir pour l'instant. On a maintenu nos décisions dans l'attente de voir comment l'année scolaire va aller, puis au courant de l'année, si tout est positif, qu'il n'y a pas d'autres surprises, on va réinvestir à ce moment-là, évoque le directeur général de l'école privée de Longueuil et président de la FEEP, David Boyles. Ce dernier rappelle d'ailleurs que le récent réinvestissement fait par Québec n'a couvert qu'une partie des restrictions budgétaires initialement imposées aux écoles privées, dont la situation financière dépend par ailleurs du nombre d'élèves qui s'y inscrivent et y demeurent par la suite. Les répercussions du récent réinvestissement de Québec sur le recrutement d'employés par les écoles privées demeurent donc incertaines et varieront d'un établissement à l'autre, au cas par cas, entrevoit Éric de Guire. Ce dernier estime que certaines écoles décideront de procéder à des embauches dans les prochaines semaines, tandis que d'autres préféreront faire preuve de prudence. On va attendre quelques mois, le temps de connaître vraiment les balises du ministère, relève Patricia Steben, la directrice générale du Collège de Montréal, qui ignore pour l'instant si elle sera en mesure de reprendre certaines embauches qu'elle avait dû mettre sur pause en raison des restrictions budgétaires imposées par l'État. Chose certaine, résume Éric de Guire, un gros défi attend les directions d'écoles privées dans les prochaines semaines. C'était des hausses des droits de scolarité revus à la baisse dans plusieurs écoles privées, un texte de Zachary Goudreau, paru le 6 août 2025 dans Le Devoir.
Se reconnaître comme proche aidant. Un texte de Jean-Baptiste Levesque, paru le 6 novembre 2024 dans le Charlevoisien. Selon le gouvernement, une personne sur quatre au Québec serait proche aidante, mais 35 % d'entre elles ne se reconnaissent pas comme telles. Le documentaire « Au-delà des mots », projeté au camp Le Manoir, vise à les sensibiliser. C'est le début du film que des proches aidants se reconnaissent. Ces personnes ne sont pas juste des fils, des mères ou des maris. Ce sont aussi des proches aidants qui ont besoin qu'on les soutienne, explique Guylaine Thériault, conseillère en développement régional à l'appui pour les proches aidants. Le couple de protagonistes du documentaire, Édith Fournier et Michel Carbonneau, eux-mêmes d'anciens proches aidants de leurs conjoints respectifs, sont venus partager leur expérience en marge de la projection qui avait lieu devant une soixantaine de personnes. C'est un film basé sur une lecture théâtrale que l'on a promenée à travers le Québec durant 7-8 ans. On l'a créé de toutes pièces ensemble. On a rencontré un accueil étonnant et on voyait que ça touchait beaucoup les gens, évoque Michel Carbonneau. L'âge faisant son œuvre, le duo a dû arrêter les représentations, mais s'est fait offrir de faire perdurer leurs mots au travers d'un film qui tourne au Québec depuis 2 ans. Ça a fait notamment 37 salles de cinéma qui étaient pleines, précise M. Carbonneau avec fierté. Ce partage au public a aussi été marquant pour ses auteurs. Ça nous a fait cheminer personnellement. Ce n'est pas facile de vivre un accompagnement qui a duré pour chacun de nous 14 ans. C'est un sacré deuil. Quand la personne décède, ça crée comme un vide. Il y a plein d'histoires qui nous sont racontées, qui ressemblent aux nôtres. Et c'est très apaisant de voir qu'on n'est pas les seuls à le vivre, de voir aussi qu'il y a une vie après. Les gens partent du film avec beaucoup d'espoir. Dans cette réalité de la maladie dégénérative, on a parfois le sentiment qu'on s'en va avec l'autre, dans un état de non-vie. Quand Michel est arrivé, ça a été la renaissance. C'est tellement précieux, ce qu'on vit ensemble maintenant, parce qu'on sait ce que c'est que de perdre, termine Édith Fournier. La projection a été organisée à l'occasion de la Semaine nationale des personnes proches aidantes par 5 organismes de la région. Le Centre d'action bénévole de Charlevoix, la Marée, l'Ancrage de l'île aux Coudres, l'Appui et le CIUS de la Capitale-Nationale. C'était « Se reconnaître comme proche aidant », un texte de Jean-Baptiste Levesque paru le 6 novembre 2024 dans le Charlevoisien.
Santé Canada approuve Ozempic pour réduire la détérioration rénale des diabétiques. Un texte de la presse canadienne paru le 19 août 2025 sur le site d'Embosse. Santé Canada a approuvé Ozempic pour réduire le risque de détérioration rénale supplémentaire chez les patients atteints de diabète de type 2. Entre 30 et 50 % des personnes atteintes de diabète de type 2 développent une forme ou une autre de maladie rénale chronique. Un essai clinique international appelé FLOW, F-L-O-W, a montré que le risque de détérioration ou d'insuffisance rénale significative était 24 % inférieur chez les patients prenant Ozempic par rapport à ceux recevant une injection de placebo. Les patients prenant ce médicament étaient également moins susceptibles de mourir d'une maladie cardiovasculaire, une autre affection qui touche de nombreux patients diabétiques. L'étude, financée par Novo Nordisk, fabricant d'Ozempic, a été évaluée par des pairs et publiée dans le New England Journal of Medicine l'année dernière et a contribué à la décision de Santé Canada. Le docteur David Cherney, néphrologue à l'Hôpital général de Toronto, a contribué à la direction du volet canadien de l'essai et affirme que les résultats démontrent qu'il est possible de réduire la perte de fonction rénale avant que les patients n'aient besoin d'une dialyse ou d'une greffe de rein. Ce qui effraie mes patients, c'est la dialyse. La dialyse ou la greffe. Fin de citation, a confié le Dr. Cherney, également scientifique principal à l'Institut de recherche de l'Hôpital général de Toronto, lors d'une entrevue. Citation. Je peux raisonnablement réduire ce risque et ainsi atténuer leur anxiété et leur peur de complications graves, sans parler des maladies cardiovasculaires dont les patients ont également une peur bleue. Fin de citation. Des résultats crédibles. Le docteur Ehud Ur, endocrinologue à Vancouver qui n'a pas participé à l'étude, a estimé que les résultats étaient crédibles et que l'approbation d'Ozempic par Santé Canada pour aider à prévenir le déclin rénal était une excellente nouvelle. Citation. La prévention des maladies rénales est un objectif très important dans la prise en charge des patients atteints de diabète de type 2 et ce médicament constitue un outil supplémentaire. Fin de citation. A déclaré le Dr. Ur, professeur d'endocrinologie et de métabolisme à l'Université de la Colombie-Britannique. Ozempic est le nom commercial d'une dose injectable de sémaglutide, une hormone du peptide 1 apparentée au glucagone, GLP-1. Ozempic a d'abord été approuvé au Canada comme médicament contre le diabète car il réduit la glycémie. Il peut également diminuer l'appétit et a été approuvé comme médicament amaigrissant pour les personnes obèses à une dose plus élevée sous le nom commercial Wegovy, également fabriqué par Novo Nordisk. Dans un courriel, Santé Canada a confirmé à la presse canadienne avoir approuvé Ozempic le 13 août, citation, pour réduire le risque de baisse soutenue du débit de filtration glomérulaire estimé, DFGE, d'insuffisance rénale terminale et de décès d'origine cardiovasculaire chez les adultes atteints de diabète de type 2 et d'insuffisance rénale chronique. Fin de citation. Le débit de filtration glomérulaire est une mesure qui indique l'efficacité des reins à filtrer les déchets et l'excès d'eau. Ozempic est le premier médicament GLP-1 approuvé au Canada pour protéger à la fois les reins et le cœur des patients atteints de diabète de type 2, a déclaré le Dr. Ur, soulignant que les bienfaits cardiovasculaires du sémaglutide ont été largement étudiés. Citation. L'avantage d'Ozempic est également la perte de poids, ce qui est un objectif très important pour la plupart des personnes atteintes de diabète de type 2. C'est une combinaison très prometteuse. Fin de citation, s'est-il enthousiasmé. Certaines personnes ressentent des effets secondaires gastro-intestinaux lorsqu'elles prennent Ozempic, a précisé le Dr. Ur, notamment des nausées, des vomissements, de la constipation et de la diarrhée. Des complications plus graves peuvent inclure une inflammation de la vésicule biliaire et une pancréatite, mais la plupart des effets secondaires sont mineurs, a-t-il précisé. Le bénéfice du ralentissement ou de l'arrêt de la maladie rénale progressive chez les personnes atteintes de diabète l'emporterait sur les risques d'effets secondaires mineurs, a soutenu le professeur d'endocrinologie. 5 ans d'études. L'essai FLOW a été mené dans 28 pays, dont le Canada. Les chercheurs ont réparti aléatoirement 3533 personnes atteintes de diabète et d'une maladie rénale chronique pour recevoir soit Ozempic, soit un placebo. L'étude a été menée entre 2019 et début 2024. Les participants ont été suivis pendant 3,4 ans en moyenne afin de surveiller les événements majeurs liés à la maladie rénale, notamment une insuffisance rénale nécessitant une dialyse ou une transplantation, une réduction de 50 % de la fonction rénale mesurée par le débit de filtration glomérulaire ou un décès d'origine rénale ou cardiovasculaire. Les doses d'Ozempic ou de placebo ont été administrées aux participants en complément d'autres médicaments qu'ils prenaient, notamment des médicaments pour contrôler la tension artérielle et la glycémie. Bien que la réduction de la tension artérielle et de la glycémie ait des effets bénéfiques sur les reins, le docteur David Cherney a déclaré qu'Ozempic semblait avoir un impact positif supplémentaire sur la fonction rénale et que des recherches futures pourraient aider à déterminer son fonctionnement. Citation : Une autre arme contre les maladies rénales, c'est incroyablement puissant. Et ces médicaments permettent souvent de redresser la situation des patients en très mauvaise santé, car ils traitent de nombreux problèmes différents : rénaux, cardiovasculaires, métaboliques et pondéraux. Fin de citation, a déclaré le docteur Cherney. De son côté, le docteur Ur a avancé qu'il était possible qu'Ozempic joue un rôle dans la réduction de l'inflammation rénale, ce qui pourrait expliquer en partie son effet positif. Quelle que soit la raison de son efficacité, il a déclaré que l'essai FLOW et l'approbation de Santé Canada renforcent l'importance d'utiliser le médicament relativement tôt dans le processus de la maladie, afin de minimiser les lésions rénales chez les personnes atteintes de diabète de type 2. C'était « Santé Canada approuve Ozempic pour réduire la détérioration rénale des diabétiques », un texte de la presse canadienne paru le 19 août 2025 sur le site d'Embauce.